Vous écoutez RFI, les 8h à Paris, 7h en temps universel, 1h à la Nouvelle-Orléans.
Andréane Mélard.
Et Gaëtan Plenet, bonjour Gaëtan.
Ah bonjour Andréane, bonjour à tous.
On sera aux États-Unis au début de ce journal.
Avec notre correspondante Loubna Anaki pour faire le point sur deux enquêtes en cours. Pour des faits qui pourraient être liés, les autorités américaines ne l'écartent pas. L'attaque d'une voiture bélier d'abord lors du réveillon du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans. Et puis quelques heures plus tard, l'explosion d'une voiture à Los Angeles cette fois, devant un hôtel appartenant à Donald Trump. À la une également, la Corée du Sud où le président déchu Yoon Suk-yeol pourrait être arrêté dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures. La première visite à l'étranger pour le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères. Il est arrivé en Arabie Saoudite hier soir. On sera aussi en France où l'année 2025 commence par un gros morceau pour le nouveau gouvernement, celui de trouver un budget 2025 susceptible enfin d'être adopté par les députés. En Italie, interdiction de fumer dans les rues et tout autre lieu public à Milan, c'est entré en vigueur hier. Et puis un anniversaire à la fin de ce journal, celui de la météo marine de la BBC. Elle fête ses 100 ans cette année.
Donald Trump dénonce une érosion de la sécurité nationale et de la démocratie.
Réaction sur les réseaux sociaux du président américain élu après l'attaque terroriste qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans pendant les célébrations du Nouvel An. Une voiture a foncé sur la foule, le bilan fait pour leur état de 15 morts. On retrouve notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Loubna, l'enquête se poursuit et on a d'ores et déjà eu une image plus claire de ce qui s'est passé.
Oui, on sait que l'auteur de cette attaque a été identifié comme étant un citoyen américain âgé de 42 ans. Il aurait loué son pick-up sur une application de location entre particuliers. Et donc, peu après 3h du matin, le soir du réveillon, alors qu'il y avait encore beaucoup de monde dans ce quartier de Bourbon Street, l'homme a foncé dans la foule avant d'ouvrir le feu sur les passants. Il a été abattu par des policiers. Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées. Certains se trouvent encore dans un état critique. Les autorités ont immédiatement parler d'un acte terroriste car un drapeau noir de l'État islamique était accroché au véhicule et des bombes artisanales ont été trouvées à bord. Des engins similaires ont également été retrouvés autour dans le quartier, ce qui pousse les enquêteurs à dire que le suspect n'a probablement pas agi seul. Le quartier de Bourbon Street reste entièrement bouclé pour le moment. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans la ville, surtout qu'un important match de football américain doit avoir lieu ce soir. Il était initialement prévu hier avant d'être reporté.
Et cette rue Bourbon Street que vous évoquiez, Loubna, elle se trouve dans le célèbre quartier français de la Nouvelle-Orléans, French Quarter. Vous le disiez, il y avait beaucoup de monde dehors pour fêter le Nouvel An. Et puis, c'est aussi un lieu très symbolique hein, de fête et de tolérance. Et c'est ce qui pourrait expliquer qu'il ait été pris pour cible, selon Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine.
Cette ville de la Nouvelle-Orléans et le quartier français représentent un endroit où se mélangent les cultures, où il y a de l'alcool, où il y a aussi une certaine liberté sexuelle qui s'exprime. C'est aussi là où on voit la communauté LGBTQ+ qui s'exprime de manière ouverte. Et donc, généralement, ça ne plaît pas à tout ce qui est rigoriste, que ce soit religieux chrétien ou religieux islamiste.
Cet endroit n'a pas été choisi au hasard.
Non, a priori, il n'a pas été choisi au hasard. On peut bien penser qu'il y avait d'autres possibilités, sans doute si cette personne vient du Texas, comme ça, les sources semblent l'indiquer, d'attaquer d'autres endroits. Mais il y avait aussi le fait que c'est une des rares villes américaines qui a des petites rues et des rues qui sont piétonnes, notamment pour ces fêtes-là.
Voilà, le docteur en civilisation américaine, Jérôme Viala-Godefroy. On vous retrouve à New York, Loubna Anaki. Il y a eu, on en parlait, cette attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans. Et puis, il y a eu aussi, quelques heures plus tard, l'explosion d'un véhicule devant un hôtel appartenant à Donald Trump à Las Vegas cette fois. Et là encore, les autorités n'écartent pas un acte terroriste, ni même, Loubna, un éventuel lien entre les deux événements.
Oui, car il y a beaucoup de similitudes et les autorités ne veulent rien écarter, d'où le fait qu'ils traitent cela comme un acte terroriste, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on sait, c'est qu'un Cybertruck, Cybertruck c'est le pick-up électrique de Tesla, ce véhicule a été loué dans le Colorado sur la même application que le pick-up de la Nouvelle-Orléans. Il est arrivé tôt hier matin devant l'entrée du Trump Hotel de Las Vegas. De la fumée s'est d'abord échappée du véhicule avant qu'il n'explose. Les autorités ont dit avoir trouvé des restes de feux d'artifice, des bonbonnes de gaz et des bidons d'essence à bord. 7 personnes ont été légèrement blessées et la personne qui conduisait la voiture est décédée sur le coup.
Merci Loubna Anaki, correspondante de RFI à New York. En Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol affirme être branché sur YouTube pour regarder les images des manifestations qui ont lieu devant chez lui. Entre d'un côté ses soutiens et puis de l'autre ses détracteurs, une apparente décontraction pour celui qui risque pourtant d'être arrêté. Ce pourrait même être pour aujourd'hui, selon l'agence de presse Yonhap. Il est visé par un mandat d'arrêt, accusé de rébellion et d'abus de pouvoir pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale début décembre. Il a pour l'instant refusé de répondre aux convocations de la justice. Yoon Suk-yeol a été, c'est vrai, destitué par le Parlement, mais il reste toujours officiellement le président, car la décision doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Mais c'est en tout cas la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un chef de l'État en exercice est visé par un mandat d'arrêt. À Séoul, correspondance de Camille Ruiz.
La tension monte devant la résidence présidentielle dans le quartier de Hanam à Séoul. Sur place, un dispositif policier très important, une quinzaine de bus, des barrages, plusieurs dizaines d'agents. Les médias locaux, dont plusieurs télévisions, font le pied de grue. Objectif, capter les images historiques de la potentielle arrestation du président. La justice a délivré un mandat d'arrêt il y a 2 jours et le bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires pourrait bien tenter de le mettre à exécution aujourd'hui, d'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Mais il devrait se confronter à plusieurs obstacles. D'abord, les soutiens du président qui protestent devant la résidence. Pendant la nuit du 1er au 2 janvier, Yoon Suk-yeol leur a adressé une lettre pour les remercier. Il déclare notamment « Je me battrai jusqu'au bout ». Second obstacle, la garde présidentielle qui a déjà obstrué l'enquête à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le mandat d'arrêt expire le 6 janvier prochain. Si Yoon est arrêté, les enquêteurs ont 48 heures pour obtenir un second mandat d'arrêt ou le libérer. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Et la justice sud-coréenne continue aussi d'enquêter après le crash d'un avion dimanche à Muan dans le sud-ouest du pays. 179 personnes ont péri. Des perquisitions ont eu lieu ces dernières heures à l'aéroport de la ville. C'est là qu'a eu lieu le drame, notamment dans les locaux de la compagnie à laquelle appartenait l'appareil.
Il y a quelques semaines, c'est une délégation saoudienne qui se rendait en Syrie pour y rencontrer les nouvelles autorités. Voyage inverse cette fois.
Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères est arrivé à Riyad hier soir. Assad al-Shibani dit attendre que cette visite, sa première à l'étranger, ouvre une nouvelle page dans les relations syro-saoudiennes, à la hauteur, je le cite toujours, de la longue histoire commune entre les deux pays. L'Arabie saoudite a longtemps été un soutien des rebelles syriens avant de rétablir le contact l'an dernier avec le gouvernement de Bachar al-Assad, finalement renversé début décembre.
Et parmi les pays affectés par cette chute du régime syrien, la Libye.
Des répercussions politiques et sécuritaires aussi. Les autorités de l'Ouest libyen à Tripoli se sont empressées, sous l'impulsion d'Ankara, de nouer des relations avec le nouveau pouvoir. Les autorités de l'Est, contrôlé par le maréchal Haftar, accueille, elle, de plus en plus de matériel militaire rapatrié par les Russes qui abandonnent leur base militaire sur le sol syrien. Et la Turquie compte bien en profiter pour accroître davantage son influence au Moyen-Orient, comme en Afrique, et notamment donc en Libye, Ouda Ibrahim.
Ceux qui, en Libye, ont récemment élevé la voix pour réclamer le départ des mercenaires syriens pro-turcs présents à Tripoli seront déçus. Les supplétifs syriens d'Ankara, dont le nombre est estimé à près de 5000 combattants à l'ouest libyen, devraient rester en place. Le transfert depuis la Syrie de lourds matériaux militaires russes vers l'est libyen renforce l'idée d'Ankara de se maintenir en Libye, où elle possède plusieurs bases militaires, aériennes et maritimes. Elle soutient l'un de deux camps libyens rivaux, celui de l'Ouest libyen à caractère islamiste. Dans une Libye qui, depuis 2011, ressemble à une arène de règlement de comptes régionaux et internationaux, Ankara, tout comme la Russie, considère que ce pays est une tête de pont pour étendre son influence sur le continent africain. Ces présences étrangères en Libye jouent un rôle déstabilisant et augmentent davantage encore le fossé qui divise la population. Elles rendent complexe toute possibilité d'une solution politique.
Ouda Ibrahim. L'agence de presse palestinienne Wafa annonce que l'autorité palestinienne a décidé de suspendre la diffusion et les activités de la chaîne qatari Al Jazeera dans les territoires palestiniens. La chaîne est accusée notamment d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires des autorités palestiniennes.
En France, la ministre de l'Agriculture attendue dans le Doubs ce matin.
Pour parler avec les agriculteurs, son collègue à la justice Gérald Darmanin se rend lui à Marseille, cette fois pour un déplacement axé sur la lutte contre le narcotrafic. Et puis il y a bien sûr l'autre grand sujet, pour ne pas dire le casse-tête du gouvernement français, le budget 2025, toujours pas voté par l'Assemblée nationale. Une assemblée morcelée. Dans ses vœux mardi soir, le président Emmanuel Macron avait appelé les partis à trouver des compromis. Et même s'il n'a aucune véritable prise sur les débats à venir, ça met quand même la lumière, Raphaël Delvolvé, sur l'épineuse équation à laquelle le Premier ministre François Bayrou est confronté en ce début d'année.
Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, n'a pas attendu 2025 pour préparer le budget. Depuis lundi, il a ouvert un cycle de consultation des forces politiques de l'Assemblée, y compris les oppositions placées aux extrêmes de l'hémicycle, celles-là même qui ont fait tomber Michel Barnier sur son projet de loi de finances qui comprenait 40 milliards d'économies et 20 milliards d'impôts nouveaux. En 2025, l'équation est la même. Quelle voie de passage trouver pour tenter de sortir les comptes de la France du rouge sans se faire censurer ? Faut-il donner des gages au nouveau Front populaire qui demande davantage de taxes ou bien au Rassemblement national qui prétend défendre les classes populaires mais dont on sait désormais que sa position peut fluctuer ? Une chose est sûre, le nouveau gouvernement, contrairement au précédent, ne veut pas paraître trop borné, mais les consultations ne peuvent pas s'éterniser. Le temps presse en raison de la censure. C'est pour le moment le budget 2024 qui s'applique, soit un déficit estimé pour 2025 à plus de 6% du PIB, toujours plus loin des 5% envisagés pour cette année par Michel Barnier. François Bayrou, qui s'affiche depuis longtemps en chantre de la rigueur, assure pouvoir boucler la séquence budgétaire à la mi-février.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
Gare à ceux qui seraient en train de fumer une cigarette en ce moment même dans les rues de Milan. Ils sont très certainement en infraction.
Sauf s'il n'y a personne à plus de 10 mètres à la ronde, mais sinon c'est désormais interdit, oui, depuis hier. Plus possible de fumer dans les espaces publics, y compris donc dans les rues milanaises. La mairie de la ville italienne espère ainsi non seulement lutter contre le tabagisme, mais aussi, Daniel Valo, réduire la pollution de l'air.
La Dolce Vita se vivra désormais sans tabac pour les habitants de Milan et pour les touristes qui viennent tous les ans visiter la grande ville du nord de l'Italie. La décision a beau susciter la colère des fumeurs milanais, elle doit entrer en vigueur ce mercredi et les contrevenants pourraient avoir à payer une forte amende allant jusqu'à 240 euros. Dans le détail, il sera interdit de fumer dans tous les lieux publics, qu'il s'agisse de la rue, de jardin public ou de terrasse de café, à moins de se trouver à plus de 10 mètres d'une autre personne, rien d'évident dans une ville aussi densément peuplée. Pour la mairie de Milan, il s'agit à la fois de décourager les fumeurs et d'améliorer la qualité de l'air. Selon un chiffre avancé par les autorités de la ville, le tabagisme contribue à hauteur de 7% à la pollution aux particules fines. Avec cette mesure, Milan se place à la pointe de la lutte contre le tabagisme passif dans un contexte international de plus en plus répressif pour les amateurs de tabac. Le Royaume-Uni envisage même d'interdire définitivement la vente de cigarettes aux personnes qui sont nées après 2009.
La précision signée Daniel Valo. Jamais une année n'avait été aussi chaude en Chine, c'est ce que révèlent ce matin les autorités. 10 degrés 92 en 2024, la moyenne la plus haute enregistrée depuis 1961, date à laquelle les relevés ont commencé. Et c'est aussi plus d'un degré en plus en une année, selon l'administration météorologique chinoise. La BBC, elle célèbre le centenaire de sa météo marine, une émission de radio qui a traversé les époques pour devenir une véritable institution, pour les marins bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui résident dans les îles britanniques. Vent, précipitations, visibilité en mer également, ça fait 100 ans que ça dure et pas de gros orages sur les audiences. À Londres, correspondance de Sarah Menei.
C'est une musique que de nombreux Britanniques à travers le monde connaissent bien. Ces quelques notes composées par le Britannique Ronald Binge annoncent le début de la météo marine, diffusée 3 fois par jour depuis près d'un siècle sur BBC Radio 4. Tout commence bien avant le XXe siècle, petit voyage dans l'histoire et retour en 1859, lorsque le naufrage du Royal Charter lors d'une tempête coûte la vie à 450 personnes au large des côtes galloises. L'amiral Robert Fitzroy propose alors un service d'alerte pour collecter les données météorologiques et les envoyer au port par télégraphe. 65 ans plus tard, la radio a débarqué dans la vie de nos ancêtres et le 1er janvier 1924, la BBC diffuse ses premières prévisions météorologiques pour la navigation et depuis, le format est resté pratiquement inchangé.
And now the shipping forecast issued by the Met Office on behalf of the Maritime and Coast Guard Agency. Viking, North Utsira, South Utsira.
Si les outils modernes réduisent l'importance d'une météo marine radiophonique, des centaines de milliers d'auditeurs écoutent toujours quotidiennement les prévisions de la BBC. La météo marine est aussi pour beaucoup un rappel nostalgique de l'héritage maritime du Royaume-Uni. Marie Billon, Londres, RFI.
RFI, il est 8h14 à Paris. RFI Matin continue avec vous, Andréane Mellard.
Merci Gaëtan Plenet. Dans 5 minutes, 3 questions au journaliste Will McGrew de Télé Louisiane. Il était sur les lieux de l'attaque à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans. Peu après le drame survenu le soir du Nouvel An. Donc restez avec nous, ce sera dans 5 minutes. Mais d'abord la presse internationale. Avec Frédéric Couteau à la une, 2025, l'année de tous les dangers.
C'est le titre de l'éditorial d'El País en ce 2 janvier. Le quotidien espagnol n'est pas franchement optimiste. El País s'inquiète tout d'abord du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Si ses engagements se réalisent dans les premières 24 heures de sa présidence, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient devront prendre fin sans que l'on sache très bien comment et à quel prix. L'expulsion de millions de personnes installées aux États-Unis mais qui n'en ont pas la nationalité devrait également commencer. L'augmentation des droits de douane à l'importation jusqu'à 60% pour la Chine sera préjudiciable à l'économie américaine et par conséquent à l'économie mondiale. Dans le même temps, poursuit El País, l'Europe entre dans une période de faiblesse en raison de la précarité politique des deux principales puissances du continent, à savoir la France et l'Allemagne. Pour ce qui est de l'Ukraine, soupire encore le quotidien espagnol, rien ne serait pire qu'une négociation bilatérale entre Washington et le Kremlin sans solidarité européenne. Si Poutine sortait vainqueur d'une telle négociation en obtenant des cessions, des concessions territoriales et sans garantie suffisante pour la sécurité de Kiev, l'Europe entrerait alors dans une dangereuse phase de fragilité face à l'expansionnisme russe. Enfin, au Moyen-Orient, pointe encore El País, les faiblesses et les fractures européennes à l'égard de la Palestine sont encore plus grandes. Sans l'Union européenne et sans l'ONU, et avec Trump et avec Netanyahou qui proposent leur géométrie régionale, les attentes de paix et de stabilité seront faibles et la reconnaissance des droits individuels et collectifs des Palestiniens sera nulle.
Finalement, cette année, il y aura Donald, Vladimir et nous, renchérit le soir à Bruxelles.
Oui, 2025, une année entamée sous le sceau de l'instabilité mondiale, mais où les présidents russes et américains joueront encore un rôle majeur. Et l'Europe, dans tout cela, eh bien, elle a du travail, soupire le soir, pour ne pas être réduite au rang de spectatrice. Oui, l'Europe doit changer, renchérit le Corriere della Sera à Rome. Aujourd'hui, la crise n'est pas financière, mais géopolitique, et oblige l'Europe à regarder au-delà d'elle-même et à reformuler son rôle mondial. Tout cela nécessite des outils de coopération encore plus complexes que ceux qui ont été nécessaires pour faire face à la crise de 2008-2012, car ils concernent non seulement la monnaie et les banques, mais aussi la politique industrielle, la défense, la sécurité énergétique et la politique étrangère, et nécessite des actions innovantes capables de soutenir la demande intérieure sans compromettre la viabilité budgétaire. L'Europe, malgré les réformes des 15 dernières années, est fondamentalement la fille d'un monde qui n'existe plus, souligne encore le Corriere della Sera. La question est donc de savoir si, telle qu'elle, elle peut survivre au nouveau contexte international. Un test fondamental sera la défense. En effet, quel que soit le scénario qui prévaut en matière de politique étrangère de Trump, isolationnisme américain ou réaffirmation de son rôle dominant, l'Europe sera contrainte de dépenser davantage en matière de défense.
Pour ce qui est de la France, 2025 risque de devenir annus horribilis, affirme Libération à Paris.
Oui, la France, qui fut longtemps le pays le plus stable d'Europe, en est devenu le grand malade, à ceci près que le populisme a chez nous deux faces, pointe Libération, une d'extrême droite, l'autre d'extrême gauche avec LFI, les deux partisans de la crise à outrance qui souhaitent accélérer la décomposition du régime en précipitant la démission de Macron et une élection présidentielle.
Enfin, le Wall Street Journal à New York se livre au jeu périlleux des prévisions.
Trump va présider à un accord de paix inédit entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais cela ne suffira pas à sauver Benjamin Netanyahou, dont le gouvernement de coalition instable s'effondrera. Il n'y aura pas de cessez-le-feu immédiat en Ukraine, car Vladimir Poutine cherchera à gagner du temps. Friedrich Merz, le leader des conservateurs, deviendra le prochain chancelier allemand à l'issue des élections de février. Et puis, prédit encore le Wall Street Journal, sans trop de risques, les rêves impériaux de Donald Trump ne se réaliseront pas. Le Canada ne deviendra pas le 51e État américain. Le Danemark ne vendra pas le Groenland. Et le Panama refusera de restituer le canal.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. En Syrie, cela fera bientôt un mois depuis la chute du régime de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir des groupes rebelles emmenés par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham, le HTS, et leur chef autrefois lié à Al-Qaïda, Abu Mohamed al-Joulani, qui se fait maintenant appeler par son nom civil Ahmed el-Shara. Néanmoins, le passé du nouvel homme fort syrien inquiète malgré tout la communauté internationale et les minorités présentes en Syrie. même si son arrivée au pouvoir est marquée par une volonté d'ouverture et d'unité. Réaction de Syriens au micro de notre envoyé spécial à Damas, Mohamed Rami.
Dès son arrivée au palais du peuple situé au sommet du mont Kaïsioun, à l'ouest de Damas, le président de la nouvelle administration syrienne, Ahmad al-Shara, n'a cessé de recevoir des délégations officielles et non officielles venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Il s'efforce d'envoyer des messages rassurants aux Syriens, affirmant que l'ère de la répression et des libertés est révolue avec le départ de Bachar al-Assad. Ces messages semblent avoir atteint de nombreux Syriens, comme en témoigne un groupe rencontré dans le quartier de Mezeh. Ils ont particulièrement apprécié qu'al-Shara, malgré ses origines islamiques conservatrices, reçoive une délégation représentant les communautés chrétiennes de Syrie en pleine période des célébrations de Noël et du Nouvel An. On écoute quelques réactions de Syriens interrogés dans les rues de Damas concernant cette politique d'ouverture des nouvelles autorités syriennes.
Nous, Syriens, sommes unis et nos confessions ne font qu'une. Peu importe la diversité de nos confessions, nous resterons un seul peuple. Sous la direction du leader Ahmad al-Shara et du conseil dirigeant, nous espérons renforcer notre coopération pour reconstruire la Syrie ensemble.
J'ai le sentiment que le pays se dirige vers une phase de reconstruction, même si ça va prendre du temps. Et ces rencontres prouvent que notre nation sera exempte de toute discrimination.
Sur le plan des relations internationales, les États-Unis, qui réclamaient autrefois la tête d'Ahmed Shara, cherchent aujourd'hui à le courtiser et à le rencontrer. Cela reflète, selon les Syriens comme le jeune Obeid, sa capacité à construire de bonnes relations avec les nations, contrairement à l'ancien régime.
C'est le climat que souhaitent les États-Unis et l'Occident. L'image que présente al-Shara est satisfaisante pour l'Occident, contrairement à l'ancien régime. Al-Shara est parfaitement conscient de ses objectifs dans ses démarches, visant à réconcilier la Syrie avec les différentes nations du monde.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, al-Shara a accueilli des dizaines de délégations issues de la plupart des pays arabes, de l'Union européenne et des voisins de la Syrie. Toutes ont exprimé leur volonté de soutenir économiquement le pays après ses rencontres. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Damas, où il est 10h22.
RFI Matin.
On en parlait dans le journal, cette attaque à la voiture Bélier menée la nuit du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, au cœur du quartier français où la foule était dense et compacte ce soir de célébration. Bilan au moins 15 morts et encore beaucoup de questions à ce stade, alors que la piste terroriste est largement envisagée par les autorités. Le journaliste Will McGrew de Télé Louisiane était sur place quelques heures après le drame. Daniel Valo l'a interrogé.
L'ambiance pour le moment, c'est vraiment juste le choc en fait. On n'a pas vécu quelque chose comme ça ici à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai qu'on avait quelques préparations, mais normalement, on ne pense pas à un attentat planifié comme ça. Donc le vieux carré, c'est vraiment un emblème en fait de la ville de la Nouvelle-Orléans. Et donc ça renforce l'impact émotif de l'attentat pour les Néo-Orléanais. Je suis maintenant dans le centre-ville jusqu'à côté et c'est vraiment tout entouré de police et c'est vraiment tout bloqué. Et c'est pour nous, c'est vraiment ironique parce que c'est normalement le site qui est le plus festif en ville. C'est vraiment inquiétant et c'est le choc, mais aussi un peu un calme parce qu'on ne sait pas encore comment réagir à cet événement.
C'est un lieu de fête, c'est aussi un lieu inclusif où tout le monde pouvait échanger, se retrouver. C'est pour ça aussi que cet endroit était visé, selon vous ?
Oui, peut-être. On ne sait pas encore, mais c'est ça ce qui est triste, c'est que la Nouvelle-Orléans a toujours été, et la Louisiane en général, un carrefour de cultures différentes. Et c'est vrai même parce que la Nouvelle-Orléans était catholique, mais à la fois tolérante. Ça a toujours été un endroit d'accueil pour des minorités juives et puis plus tard musulmanes et autres. Et bon, cette diversité, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, mais c'est aussi peut-être ce qui a été attaqué, cette ouverture à toute religion et toute couleur. On sait pas encore, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé assez vite, les forces de sécurité, que c'était un attentat terroriste. Ça doit être confirmé à 100%, mais le drapeau, évidemment, de Daesh qui a été trouvé dans Le véhicule qu'ils ont utilisé est une preuve assez importante pour commencer.
La Nouvelle-Orléans devait accueillir le soir de l'attentat un match de football très important. Il a été annulé. Il y a bientôt le Super Bowl qui sera organisé à la Nouvelle-Orléans. C'est également un événement majeur. Est-ce que la ville va pouvoir accueillir tout simplement cet événement après ce qui s'est passé ?
Ça reste vraiment à voir, en fait. On espère que ça va être possible. Mais c'est inquiétant, en fait. Ça a toujours été une problématique qui n'a pas encore été traitée par les autorités. Et c'est que ces cibles faibles, ces soft targets, comme on dit en anglais, sont vraiment pas assez préparées, assez protégées pour des attentats terroristes. Heureusement, on n'a pas dû faire face à cette problématique avant cet événement en Louisiane. Et désormais, on va être forcé de le faire. Et c'est vraiment une grande question parce que nous, les festivités comme ça, ça, c'est notre manière de vivre. C'est vraiment quelque chose qui arrive chaque jour, chaque semaine en Louisiane. Et désormais, il faut penser comment est-ce qu'on peut et est-ce que c'est possible de protéger chacun de ces événements. On ne sait pas comment on peut vraiment être sûr qu'il y aura de la sécurité là-bas, dans le Dôme ou dans n'importe quel autre événement dans le futur.
Ouais, d'autant qu'il y aura Mardi Gras également, et là, il y aura aussi un enjeu de sécurité majeur.
Et ça commence vraiment juste après.
Merci, Will Magro.
Merci à vous.
Entretien avec Daniel Vallaud. Le combat contre le réchauffement climatique continue en 2025 et cela pour tenter d'enrayer la spirale dans laquelle la planète est plongée, d'augmentation des températures et d'anéantissement progressif de la biodiversité. Pour mener ce combat, la société civile s'engage. Nous étions hier dans les rues de Berlin, en Allemagne, où l'eau de pluie est récoltée grâce aux efforts des riverains. Aujourd'hui, parlons d'un secteur qui s'investit pour la biodiversité, un secteur à la fois responsable et victime de ce qui est en train de se passer de ce changement climatique. Alors, une des multiples solutions apportées, c'est de planter des haies dans les champs. Reportage dans le sud de l'Île-de-France. Jeanne Richard.
Sur le plateau de Saclay, battu par les bourrasques de pluie et de vent d'hiver, un groupe d'étudiants est venu planter une haie sur une parcelle agricole.
Alors là, je suis en train de bêcher pour planter un trou-haine. Du coup, il faut enfoncer la profondeur de bêche. Ensuite, on met le plan. Ça tient chaud. Surtout avec le vent, on se réchauffe bien comme il faut.
Il travaille sous la direction d'Antonin Mercier, conseiller agroforestier.
Donc là, on va avoir du trou-haine des bois. Donc le trou-haine des bois, il y a des fleurs qui sont très mellifères. On va avoir de la viorne au billet. Pareil, un arbuste qui va faire 3 mètres de haut et qui a des fleurs très intéressantes pour les pollinisateurs. On va avoir de la viorne thym. Donc elle, la viorne thym, elle a été plantée parce qu'elle a des feuilles persistantes, donc ils vont rester l'hiver. On a aussi quelques petits fruits, donc un peu de framboisier, un peu de groseillier et cassissier. Et donc on a dans cette haie, on a une quinzaine d'essences qui vont permettre de créer autant d'habitats et de ressources pour la biodiversité.
C'est le premier objectif de cette haie, faire revenir la biodiversité et ainsi rétablir un certain équilibre naturel, explique Alexia Beaujeu, spécialiste en agroécologie chez Terre et Cité.
La haie, elle va permettre de ramener ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, c'est-à-dire des insectes et des oiseaux qui vont aider l'agriculteur dans son travail. Donc, par exemple, parmi ces auxiliaires de culture, on a des rapaces qui sont des prédateurs naturels, des corbeaux et des pigeons qui sont des ravageurs de culture très présents sur le plateau. Donc voilà, en fait, on conserve des populations d'insectes, d'oiseaux, d'auxiliaires de culture, de petits animaux qui rendent l'agriculture possible, en fait, qui sont nécessaire pour qu'on puisse cultiver.
Mais les haies apportent bien plus à l'agriculteur.
Elle va avoir un effet brise-vent. Sur le plateau de Saclay, on a beaucoup de vent. Le vent, ça a un effet de dessèchement. La haie va aussi permettre de réduire les effets de coups de chaud pendant les vagues de chaleur. Et aussi, on est dans une région où on a énormément de pluie intense et des effets de ruissellement très forts qui contribuent à éroder le sol petit à petit. Donc ces plantations, elles vont permettre de ralentir le ruissellement et de retenir le sol.
Le pays dispose de 750 000 km de haies, mais chaque année, environ 20 000 km sont arrachés pour gagner quelques mètres carrés de terrain ou pour laisser passer de gros engins agricoles. L'objectif est donc de convaincre les agriculteurs d'inverser la tendance. La France a lancé l'année dernière un plan haies pour gagner 50 000 km de haies chaque année d'ici 2030.
Ce reportage de Jeanne Richard pour notre question d'environnement du jour. RFI Matin, on reste ensemble jusqu'à 9h et dans un quart d'heure, l'infosport avec Christophe Diremzian. Ce sera juste après le journal.
Cette semaine, RFI vous invite tous les jours au concert.
Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés en 2024 par RFI. Retrouvez ce jeudi JCB, la lauréate du dernier prix découverte RFI.
C'est à 20h10 TU sur l'antenne, sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de RFI Musique.